Kasher et Hachal. J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Bombassi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de maîtrise du vent, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs consacré à la mise en place du Conseil économique et social. Prévu à l'article 208 de la Constitution, cette institution a été installée le 16 décembre dernier. Elle a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et les gouvernements. Il peut également, de sa propre initiative, interpeller les gouvernements et les provinces sur les réformes qui lui paraissent des natures à favoriser le développement économique et social du pays. Quelles peuvent être les priorités de cette institution? 081-890-575, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission réalisée par Julie Faisan. Mimi Kindoua sur la mise en onde et Piero et la Mégie vous la présente sous la supervision des Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
Nous parlons de la mise en place du Conseil économique et social. Cette structure prévue par la Constitution de la République à l'article 208 qui lui confie comme mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et les gouvernements. Le Conseil économique et social peut également, de sa propre initiative, interpeller le gouvernement et les provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays. Et tous ces domaines sont définis ici dans la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social à l'article 4. Nous allons dégager ensemble avec vous les priorités que vous voudrez voir le Conseil économique et social s'occuper dans le cadre de la RDC, dans la situation dans votre milieu. Mais nous avons aussi associé à cette émission, à cet échange, le professeur Stéphane Zita qui est spécialiste en questions de développement. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Joignez-nous au 081-890-6315. Mais nous avons aussi reçu beaucoup de messages sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Professeur Zita, vous êtes avec nous en direct dans cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Merci de votre disponibilité pour aborder ces questions qui touchent à l'économie sociale, qui touchent au développement de notre pays. Pensez-vous que dans les contextes comme les nôtres, c'est quand même important d'avoir un conseil économique et social avec comme mission que nous avons évoquée tout à l'heure?
Oui, je pense que c'est une très bonne idée. C'est d'abord les respect de la Constitution que j'ai salué par les plus, par les chefs de l'État. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est annoncé, c'est prévu par la Constitution à l'article 208. Et, à l'adjectement à la question, qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont les priorités? Je pense que, d'abord, j'accepte que je suis d'accord avec vous que c'est une très bonne chose qui est reste de la Constitution. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Je pense que le problème que nous devons attaquer en premier lieu, c'est que la base est très pauvre. Et qu'on dit en anglais B, bottom to poor. Et la base congolaise est très pauvre, donc la classe ouvrière congolaise, la masse est très pauvre. Et vous êtes maintenant en période de fête et vous allez voir que nombreuses familles ne vont pas avoir la chance même de fêter pendant cette période très importante de leur vie. Et si nous pouvons améliorer la condition minimale de la base, eh bien, c'est une des priorités. Et deuxièmement, il faut que nous voyons que le problème de l'Ebola qui a réveillé la moitié des Africains nous montre que notre système de santé a besoin de réformes immédiates et le système d'éducation également, pour que nous puissions avoir des formations qui ne sont pas en inadéquation avec le marché d'emploi. Mmh. Donc, le besoin est criant, le conseil est le bienvenu, mais que ce ne soit pas une fuite en avant.
Oui, professeur, mais quand on regarde au niveau de la loi, même de la Constitution, on dit que les conseils économiques et sociaux formulent des avis qu'ils sont consultatifs, hein, pour que ce soit la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Pensez-vous vraiment que les membres de ces conseils qui sont issus des différentes couches de la population peuvent être écoutés plus facilement ou bien le gouvernement peut fonctionner selon sa politique, selon son programme, selon ses priorités, ou bien c'est important quand même qu'il y ait la collaboration ou qu'on écoute quand même les avis du Conseil économique et social?
Je pense que le fait que la Constitution qui était obtenue par référendum ait prévigué ce conseil avait quand même réfléchi que l'existence de ce conseil va permettre que la RDC ait quand même des parts de responsabilité partagée.
Mm-hmm.
Et ici, il y aura quand même un cahier des charges remis à ces hommes et ils seront quand même rélevable à la société de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec les fonds qu'ils avaient et qu'est-ce qu'est leur mandat. Donc c'est quand même une nouvelle base de pression à un groupe qui doit être mal là-bas pour recevoir un salaire, mais qui doivent un groupe qui doit délivrer certaines réalités du pays.
Mm-hmm.
Il disait qu'il y a des problèmes très sérieux. La base est très pauvre, la base est très misérable, la base est trop souffrante. Alors, quel développeur pour que les gens à la base n'attendent toujours pas le jour qui viendra, mais quand ils vont serrer la ceinture, quand le sommet est un peu très aisé. Donc, il y a un équilibre social dont on a besoin, et ce conseil va peut-être être l'interlocuteur, mmh. parce qu'il y a quand même un moment où les gens qui dirigent ne sont pas de mèche avec les gens qui sont dirigés, parce qu'il y a quand même un écart. Je pense qu'ils deviendront les ponts dont on a besoin, qui va relayer les vrais cris du peuple, les vrais cœurs du peuple.
Mmh. Oui, en attendant qu'on voit comment régulariser la situation de là où se trouve le professeur pour nous permettre de bien communiquer. Rappelons, d'ailleurs, professeur, on va revenir à vous, il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui sont sur les antennes, mais rappelons d'abord que l'article 4 de la loi dit ceci, ce conseil est chargé notamment d'analyser la conjoncture économique et sociale du pays, d'assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales, provinciales et internationales, ainsi que leurs répercussions sur la vie de Congolais, contribuer à l'information des citoyens sur l'évolution de la situation économique et sociale, donner son avis sur les orientations générales de l'économie nationale, formuler des propositions dans les divers domaines économiques et sociaux, favoriser la coopération entre les partenaires économiques et sociaux et contribuer à l'élaboration d'une charte sociale. Voilà autant de missions qui sont confiées au Conseil économique et social. On va revenir à vous, professeur Stéphane Bita-Zizida, pour continuer cet échange avec les auditeurs sur les priorités qu'ils voudraient aujourd'hui voir cette structure prendre en compte. Rappelons d'ailleurs que dernièrement, les conseils économiques et sociaux des Nations Unies avaient rappelé aux pays les moins avancés, ainsi qu'à leurs partenaires de développement, de faire davantage d'efforts pour la mise en œuvre de 8 domaines prioritaires du programme d'action qui a été défini à Istanbul. Cela veut dire qu'il faudrait que les pays les moins avancés qui ont mis en place le conseil économique et social s'intéressent beaucoup plus aux questions des capacités de production, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et le développement rural, du commerce, des produits de base, des développements humains et sociaux, les crises multiples et les nouveaux défis, la mobilisation des ressources financières pour le développement et le renforcement des capacités, la bonne gouvernance à tous les niveaux. Voilà l'importance de ces questions qui touchent au Conseil économique et social. 081 890 7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partie à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un test de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. Plusieurs, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Maître Patrick, vous êtes en Bujimaï au Kasaï Oriental. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi l'émission principale pour les conseils économiques et sociaux dans le contexte qui est le nôtre. Alors pour vous, quelles doivent être les priorités dès que les membres vont déjà se mettre tout de suite à travailler pour aider les institutions à améliorer la situation économique et sociale de la population?
Oui, permettez-moi avant d'évoquer les priorités, parce que certainement les priorités sont nombreuses. Vraiment, il y en a beaucoup parce que notre pays est en crise, notre pays est en difficulté. Mais seulement, laissez-moi vous faire part de ma crainte. Nous savons que notre pays a un problème d'abord institutionnel. Ça c'est sûr, institutionnel parce que, bon, c'est vrai qu'elles sont bonnes, bien structurées, mais c'est dans leur fonctionnement qu'on réalise qu'il y a beaucoup à redire là-dessus. Bon. Il y a ce conseil, ces structures qui vient d'être mise sur pied et qui va bientôt fonctionner. Le drame, pour moi, c'est que elle n'a qu'une capacité consultative. Bon, elle peut émettre des avis après avoir observé tous les secteurs de la vie socio-économique. Elle émet des avis. La crainte, c'est comme vous l'avez dit déjà tout à l'heure là, est-ce que ces avis seront pris en compte? Et puis ma deuxième, mon deuxième étonnement quand même, c'est que est-ce que vraiment ces structures étaient vraiment indispensables? Parce que nous avons le Parlement. C'est vrai que cette structure est une émanation de la Constitution. Il n'est pas question pour moi de remettre en question la Constitution. Et je pense que la loi organique qui organise ce conseil a bien défini et c'est intelligemment fait la mission donnée. Mais je dis, est-ce que c'est vraiment indispensable au regard de la précarité des finances de notre pays, au regard de la faiblesse de notre budget? Ça va demander encore de nouveaux moyens, parce que j'estime que c'est une structure technique. Regardez bien dans chaque ministère, dans tous les ministères de notre gouvernement, il y a des experts, et je peux vous assurer des experts vraiment experts, alors intelligents, nous connaissons certains parmi eux. Je me dis, avec la faiblesse de notre budget aujourd'hui, est-ce qu'on ne pouvait pas un peu se serrer la ceinture, compter sur tous ces experts dans ces différents ministères qui peuvent faire peut-être pas parfaitement le travail du conseil, de ce conseil, mais du moins régler plus ou moins avec efficience tous les problèmes, plutôt que de mettre sur pied une structure qui n'aura qu'une vocation consultative. Je me dis finalement, est-ce que les avis qu'elle émettra seront entendus et seront mis en application par les institutions qu'elle vise? Ça, c'est ma crainte. Et je vais conclure en disant que les priorités, on peut les citer de mémoire sans réfléchir. Ce sont les infrastructures sociales de base, les hôpitaux, les écoles, les emplois. Tout ça, nous estimons que ce sont des priorités. Mais est-ce que c'est seulement cette structure qui est à même de sensibiliser toutes les autorités sur ces besoins, alors que ces besoins sont patents, ils sont vécus au quotidien? Je crains donc qu'ils soient inutilement budgétivores. Je conclue en disant que si cette structure n'est pas totalement inutile, je dirais, avec tout le respect que je dois aux animateurs de cette structure, qu'elle n'est pas non plus indispensable.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Vous estimez qu'on ne peut pas aujourd'hui dire d'annuler parce que cela est prévu par la Constitution, mais du moins vous estimez que la RDC ayant suffisamment des experts à travers les différents ministères, on pourrait recourir à eux pour voir comment définir les priorités par rapport au secteur économique et social. Et vous estimez que, vu la précarité de notre budget, le Conseil économique et social qui est composé des 68 membres qui sont et l'émanation des différentes catégories professionnelles, 68 membres, vous estimez qu'il faut une dotation, selon ce que la loi prévoit, il faut un salaire, ça risque de poser des problèmes dès lors que nous avons déjà assez de problèmes qui se posent sur le plan financier, mais vous estimez qu'on risque de ne pas avoir l'impact du Conseil économique et social dès lors que ces avis sont consultatifs. Il reste à savoir si toutes les institutions à tous les niveaux peuvent se référer aux recommandations, aux avis du Conseil économique et social. Mais vous estimez qu'il y a beaucoup de priorités aujourd'hui pour cette structure, pour définir les lignes et les conseils qu'il faudrait donner aux institutions. Merci beaucoup, Maître Patrick, de nous avoir appelé des Mbujimayi au Kasaï oriental. Dieu merci, vous êtes à Manono, dans la province du Katanga. Bonjour, Dieu merci.
Bonjour, Maître Général. Bonjour à tous les amis.
Vous avez suivi Maître Patrick qui s'inquiète un peu par rapport aux moyens, une structure des 68 membres. Il estime que malgré que la Constitution prévoit cela, ça risque de ne pas avoir assez d'influence, comme la vie n'est que consultatif. Ceux qui dirigent les différentes institutions peuvent s'en passer de ces avis. Alors, pour vous, comment permettre à cette structure, effectivement, d'être plus efficace, de pouvoir mettre ces avis qui doivent être pris en compte par les différentes autorités à tous les niveaux et ainsi aller de l'avant en s'occupant des questions prioritaires du pays? Qu'est-ce qui doit être fait, Dieu merci?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, je suis presque de son avis. Nous devons savoir que tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons aider cette institution qui est mise en place et qui va penser pour le développement du pays. Le problème, c'est quoi? Premièrement, c'est sensibiliser d'abord la personne. Pourquoi? Parce que si l'institution n'a pas assez de moyens, ne va pas réussir, ne va pas vraiment aller de l'avant. Mais si l'institution a des moyens, vraiment, de payer un budget consistant, même la structure qui est mise en place aura à faire les grandes choses, aura à faire les grands travaux pour le développement de notre pays. Ensuite, ce sont ceux qui sont animateurs des institutions de l'État. Vraiment, doivent aider cette nouvelle institution juste à amener le pays au développement. Et pour aussi, pour ajouter, je vais vous dire une chose. Nous allons aider cette structure juste pour étudier les priorités pour chaque province, soit pour chaque milieu. Vous savez, les priorités des Kasai ne sont pas les priorités du Katan, ne sont pas les priorités du Bandundu. Voilà pourquoi on ne va pas mettre les priorités dans l'ensemble, soit confondre les priorités des Kinshasa aux priorités de Katanga. Je vais donner l'exemple de Manono ici. Il y a les gens qui font des grands chats, qui sont agriculteurs dans des milliers d'euros, qui font des grands chats. Parfois, vous trouvez un cultivateur, comme dans les secteurs qui opposent, qui fait au moins 3000 mètres de maïs par an, mais il ne connaît pas évacuer sa production agricole. Où est-ce qu'il va amener ça? Il va ça à un vil prix et toute sa production passe comme ça. Même si ce monsieur avait une rose qui pouvait l'amener de son millier au centre d'écoulement, ce monsieur pouvait se réjouir, pouvait se retrouver. Voilà, il y a là aussi, il n'y a pas le besoin des routes, il y a le besoin d'autres choses. Ça aussi, c'est une priorité à part. Voilà, nous avons voulu aider cette structure qui est mise en place.
Merci. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous estimez qu'avec beaucoup de sensibilisation, si on dote le Conseil économique et social de moyens, il peut bien faire son travail pour accompagner les institutions dans l'amélioration des conditions de vie de la population, mais tout en définissant les priorités, tenant compte aussi de chaque zone, de chaque milieu, de chaque province, parce que les priorités ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous êtes à Manono dans les Katanga. Olivier, vous êtes à Kikwit dans le Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez suivi les amis, à notre ami Patrick de Mbujimayi qui s'inquiète un peu par rapport aux moyens, mais dis-moi, je venais de lire tout à l'heure un message, c'est celui de Maître Patrick Mavinga de Matadi qui dit ceci: le Conseil économique et social est constitutionnel et doit se confirmer grâce à ses prérogatives et son indépendance est reconnue par la loi organique seulement. L'homme congolais, dont les vertus sont parfois loin de faire l'unanimité, travaillera-t-il pour l'intérêt commun? Votre point de vue.
Oui, Piro, moi je m'inquiète aussi comme le premier intervenant parce que il y a déjà eu, avant ce conseil, il y a déjà eu beaucoup de structures, beaucoup d'institutions qui ont défini les problèmes de la République. Et je pense que si, à ce temps-là, on avait pensé faire le travail tel qu'il avait été défini, je pense que le Congo serait déjà en train de sortir du bourbier. Mais un nouveau conseil consultatif Et c'est ça, le caractère consultatif ne lui donne pas suffisant. Voilà. Donc, ça nous pousse vraiment à nous inquiéter. Et comme disait le premier intervenant, c'est vraiment c'est de l'argent pour moi jeté par la fenêtre. Et je crois que, bien que ce soit prévu par la Constitution, ce n'était pas le moment de l'installer. Étant donné qu'il y a aujourd'hui des problèmes qui doivent être résolus de façon prioritaire, il y a eu il y a le recensement dont on est en train de parler et pour lesquels on n'a pas de moyens, je crois que ce n'est pas ce conseil qui devait être installé en priorité. Alors s'il faut des priorités pour le développement de ce pays, nous avons deux qui sont connues et dont on a besoin. Nous avons la bonne gouvernance, c'est déjà la première priorité, c'est le premier conseil que ce conseil devra donner au gouvernant. Et le deuxième conseil pour moi, c'est la bonne formation de la jeunesse. Monsieur Pierrot, je vous assure que demain, vous n'aurez plus de comptables, parce que les mathématiques, on ne les connaît plus. Vous n'aurez plus d'ingénieurs. La géométrie, la trigonométrie, on ne connaît plus. Alors, parce que c'est là les deux choses essentielles pour moi, pour le bon développement, la bonne gouvernance et la formation de la jeunesse. Mmh. Je ne suis pas dit à 14 heures. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Olivier. Vous estimez qu'au-delà du fait que ça peut être aussi assez de dépenses pour les trésors publics, mais du moins, des priorités pour vous sur lesquelles les conseils économiques et sociaux pouvaient s'épancher pour définir des avis à émettre pour les différentes institutions, c'est de s'installer dans la bonne gouvernance. Tout à l'heure, je venais d'évoquer, c'est parmi le oui et le non défini par les conseils économiques et sociaux des Nations Unies, en demandant aux pays les moins avancés de pouvoir investir dans la bonne gouvernance à tous les niveaux. Vous estimez que c'est une priorité, mais aussi dans la formation, c'est-à-dire qu'avoir une politique économique qui permette à ce qu'aujourd'hui on investisse assez dans la formation de la jeunesse pour voir comment développer les pays dans l'avenir. Merci beaucoup Olivier Dekikuita Kinshasa. Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierre Lamégi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitole.
Vous avez suivi les uns les autres. On pense qu'au-delà du fait que la structure peut consommer de moyens pour les budgets de l'État, mais c'est important quand même, comme le disait tout à l'heure Olivier, qu'elle puisse émettre des avis sur la bonne gouvernance, sur la formation, et cela peut amener le Congo à sortir du bourbier selon les termes qu'il a utilisés. Quel est votre point de vue, Omar?
Merci beaucoup, Pierrot, du verbe à ce que vous m'avez dit. Je salue, comme tout Congolais conscient, l'arrivée de ce conseil économique et social, qui d'ailleurs ne vient que respecter la volonté du constituant, qui en l'article 210 et 210 avait bien voulu qu'on institue un conseil économique. Ça fait une très bonne idée.
Mm-hmm.
Moi, je pense que nous avons deux grands problèmes dans ces pays. Le premier problème, c'est celui économique, et le second, c'est celui social. Et Oufouet Boigny disait, lorsque dans un pays l'économie est en rumeur, la politique tous. Et le même Oufouet Boigny encore dit, le premier défi d'un gouvernement, c'est de satisfaire les besoins sociaux de sa population. Moi, je pense que l'une des solutions pour sortir de ces gouffres économico-sociales, c'est de créer une institution qui puisse donner des avis experts quant à ceux. Mais j'ai des inquiétudes, Pierrot, sur ces, premièrement, c'est un conseil qui est comme un service d'expertise consultative, qui est appelé à émettre des avis experts. Ma première inquiétude, c'est la non-prise en compte de ces avis. C'est vrai, on a toujours eu des cadres économiques, on a les DCRP qui ont été, les documents cadres pour la réduction des pauvretés. Nous avons même un cadre de concertation économique qui réunit le public et le privé. Mais ces cadres ont toujours proposé des avis considérables, mais les gouvernements et les autres institutions n'en tiennent pas compte. Ça, c'est ma première inquiétude. Les conseils peuvent bien exister et mettre des avis, mais qu'on ne respecte pas. Et deux, ma deuxième inquiétude, c'est que ces conseils qui composaient des membres qui ont été nommés par les décideurs politiques, on risquerait d'avoir des membres du conseil qui ne sont pas indépendants, mais qui satisfassent les désirs des gens qui les ont nommés et non la population. Ça, sont mes deux inquiétudes. Voilà pourquoi je voudrais citer pour proposer premièrement, comme l'a dit la Constitution avec la défense, le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques lui soumises par les présidents de la République, l'Assemblée nationale, les Sénats ou les gouvernements. Il faudra que tous ceux qui sont concernés soient conscients. Vous avez créé un organe consultatif qui serait plus loisible, plus normal de respecter les avis qu'il donne. Pour que nous puissions vraiment espérer à une réelle solution sur le plan économique et social. Deuxièmement, Je demanderai aux membres qui ont été nommés de savoir qu'ils n'ont pas été nommés pour satisfaire les désirs de ceux qui les ont nommés, mais pour sortir la RDC des gouffres économico-sociales qu'ils vivent. Qu'ils soient donc dotés de la bonne volonté, de la bonne moralité et de la volonté de changer les choses.
Mm-hmm.
Et je voudrais finir, telle est ma dernière proposition, que l'on puisse doter à cet organe des pouvoirs sanctionnateurs. Parce que si on se limite à des simples recommandations qui n'ont pas de sanctions, celui qui est censé appliquer les avis verra ce qu'il pourra. Qu'on puisse, dans la loi mettant en œuvre ces conseils, ajouter des pouvoirs de sanctions. Dès lors, nous émettons des avis et celui qui est censé l'appliquer ne respecte pas, il y ait quand même des sanctions, ça pourra arranger les choses. Je ne me suis pas trop imprimé du sujet, mais je crois que j'ai quand même fait l'utile dans les...
Merci beaucoup, Omar, vous avez été dans l'essentiel, mais plusieurs personnes ont estimé lors du débat, des débats de la caractère générale, que ce n'était pas important que les conseils économiques et sociaux puissent avoir un pouvoir de sanctions dès lors qu'il y a le Parlement qui a cette mission là sur l'exécutif, hein. Mais pour un peu plus préciser, l'article 7 de la loi organique parle des 68 membres, hein, n'est-ce pas, qui sont répartis selon les différentes organisations professionnelles. Ça va de la société civile, des corporations professionnelles, du secteur scientifique bancaire, mais de la diaspora, ceux qui doivent représenter les provinces, mais aussi ceux qui sont désignés par le président de la République, soit personnalité indépendante désignée par le président de la République, mais les autres sont désignés par leur corporation. Et vous avez insisté là-dessus, merci beaucoup, mais c'est important. Mais au-delà, il ne faut pas écarter, hein. Il y a le DCRP, il y a le cadre des concertations économiques. Vous estimez que tout ce qui ressort de ces différentes structures, de ces différents débats, c'est rarement pris en compte par les décideurs pour définir la politique économique et sociale du pays. Mais vous souhaitez quand même qu'on puisse écouter les conseils économiques et sociaux. Merci beaucoup, Omar, de nous avoir appelé de Kinshasa. Le professeur Mumbo, vous êtes à Kamina, vous gardez la ligne. Le temps d'accorder la parole à professeur Stéphane Edizita pour mettre un point de vue sur ce qui venait d'être dit tout à l'heure par les auditeurs. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Professeur Stéphane Zitanizida, vous avez suivi des compatriotes, hein, ils ont émis des points de vue, hein, qui sont partagés. Les gens estiment que le moment n'est pas indiqué avec la situation de précarité sur le plan budgétaire de pouvoir supporter un volume des dépenses publiques pour les conseils, mais les autres estiment que s'il y a de la volonté, de l'investissement, des moyens, on peut y arriver pourvu que ce qui définisse la politique sociale et économique puisse écouter et recevoir les avis de ces conseils. Qu'est-ce que vous pouvez placer comme commentaire par rapport à ce qui a été dit par nos auditeurs professeurs?
Merci Pierrot, je pense que j'étais vraiment placé de voir la réflexion qui est très bonne, mais qui se résume en deux choses. Un déficit de confiance. Les gens se posent la question, pourquoi multiplier des structures si les inachevés ne sont pas encore achevés, notamment. Vous savez que le peuple congolais veut être écouté. Et le peuple veut être écouté, il n'est pas écouté, il veut être respecté, et on doit respecter la Constitution. Alors maintenant, nous avons encore quelque chose qui arrive, alors qu'il y a beaucoup d'inachevés, entre autres. Vous savez que nous avons encore le moratoire sur la nationalité au niveau du Parlement. Vous savez que nous avons encore les cycles directement encore complets. Vous savez que nous avons encore les guerres, les rébellions qui continuent jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'était le moment, quand on a encore des inachevés, est-ce que ce n'est pas trop embrassé? C'est ça qu'ils sont en train de dire. Mais, on ne doit pas vouloir une chose de son contraire. Comme c'est demandé par la Constitution, y compris la décentralisation et de la Constitution, nous devons commencer à réfléchir à avoir les priorités. Donc, je suis d'accord avec le Conseil économique et social, mais je voudrais insister à trois points. Le premier, nous devons comprendre que le peuple congolais est en train de souffrir. Je me répète, que la base, les Congolais moyens est trop pauvre, il n'a plus rien. C'est l'heure des fêtes, il est trop tiraillé. Il faut la justice sociale, qui n'est pas encore vraiment là. Il faut la démocratie, où les gens se sentiront que les pays les appartiennent et que quand ils ont donné un mandat à quelqu'un, le mandat est respecté. Parce que c'est nous les professeurs du pouvoir. Et le peuple demande qu'il y ait la transparence, que quand les contrats sont signés au nom du peuple, par les gens du pouvoir, que le peuple connaisse de quoi il s'agit. Et les programmes de l'ITA et l'ITA, nous avons besoin de mettre tout ceci en ordre. Donc, il y a encore cette gouvernance-là qui est le problème. Et je pense que c'est la gouvernance à tous les niveaux qui est le problème ici. Et les conseils bienvenus, mais espérons que ces conseils vont aussi réviser immédiatement ce qui cause qui est le problème à la fois économique et sociaux chez nous, et bien c'est la mal-gouvernance. Alors cherchons comment est-ce que nous pouvons réparer cette question-là et répondre à cette préoccupation du peuple. Une fois de plus, analyser c'est bon, mais est-ce que nous allons arriver un peu à satisfaire les besoins des peuples qui sont vraiment criants? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils veulent connaître maintenant?
Alors vous estimez, comme le disaient les auditeurs tout à l'heure, professeur, qu'il y a beaucoup de choses, comme notre ami Maître Patrick de Mbujimaï, il disait que non, le problème du pays sont connus, Olivier venait de le dire, mais les Nations Unies insistent aussi sur la bonne gouvernance à tous les niveaux, ce qui peut permettre à ce que les avis même du Conseil consultatif, du Conseil économique et social puissent répondre. Mais alors, quand vous regardez notre configuration, vous avez beaucoup insisté sur la crise des confiances entre les gouvernés et les gouvernants par rapport à la politique, à la distribution de la justice, de toute la politique, et cela peut quand même résoudre. Mais par le fait que les membres du Conseil économique et social sont issus de la possession d'émanation de la population, dans le sens que les membres sont désignés par des différents des ordres, des associations, des confessions religieuses, du monde scientifique, est-ce que là, cela peut créer quand même un équilibre dans les débats, dans la définition des priorités, professeur?
Je pense oui, mais encore, désigner, c'est différent d'élire. Quand nous avons la démocratie qui va être installée, on va cesser cette idée de désigner les gens. Quand on désigne les gens sont presque obligés de répondre à ceux qui les ont choisis. Et une fois de plus, je pense que si on peut arriver à achever ce qu'on a commencé, les cycles électoraux, pour que le Congo ait des représentants de la base au sommet, élus par le peuple. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun secteur, aucun territoire qui est gouverné par quelqu'un qui a été choisi par le peuple. Et vous savez bien que le mandat des sénateurs aujourd'hui, c'est mandat 2006. Vous savez aussi que nombre de nos gouverneurs, leur mandat, il y a des problèmes. Alors je pense que maintenant, nous allons désigner n'est pas encore élire. Ce dont le peuple a besoin, c'est une démocratie qui donnera les pouvoirs au peuple, et les pouvoirs du peuple seront respectés, et la volonté sera respectée. Donc le peuple demande qu'on puisse l'écouter et le respecter. Mais quand le peuple demande une chose, par exemple, il vous donne un mandat, je viens encore le consulter, que la partie de ce qu'il a dit qu'on n'a pas compris quand il a parlé hier, et je vous donne un mandat, des mandats, et ainsi de suite. Donc je pense qu'on ne doit pas entretenir les foyers de tension, et c'est là le problème de notre pays, qu'on a traité trop de fois des tensions, pas des machinaux, mais en Afrique, et que nous aimons toujours cultiver des tensions. Aujourd'hui, le peuple congolais demande une seule chose, les respects de la Constitution et les respects de sa voix, de sa volonté, pour que nous arrivions à gérer nos
merci,
vies.
Merci beaucoup, professeur. Vous estimez que cela doit marcher de pair, désigner les membres du Conseil économique et social, mais dès lors qu'au niveau de la base, les gens n'ont pas des représentants qui peuvent prendre en compte leurs besoins, les définir, les couler dans une priorité qui peut être communiquée au pouvoir public, ça sera difficile, mais l'essentiel est que ceux qui sont désignés arrivent à travailler pour l'intérêt, les missions qui sont confiées, plutôt que pour répondre aux besoins des différentes associations, structures qui les ont désignées. Prof Mwembo, vous êtes à Kamina, dans la province du Katanga, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi les uns les autres, les soucis, c'est d'arriver vraiment à voir ces conseils, y compris que d'autres structures qui s'occupent de l'analyse des questions économiques et sociales, fournir vraiment des éléments qui doivent être pris en compte par le pouvoir public dans la définition des priorités en fin de compte, comme le professeur Stéphane Zita le disait tout à l'heure, arriver vraiment à améliorer les conditions de vie de la population, votre point de vue?
Merci, merci. Je profite de l'occasion pour saluer tous vos auditeurs à travers le monde qui aiment Radio Okapi et qui la suit chaque jour à travers
merci.
Cette émission Parole aux auditeurs.
Merci.
Je respecte tous les points de vue qui ont été donnés par des collègues et des éminents collègues, sincèrement, qui ont parlé des choses par le racine. Et même des intervenants qui ne sont pas des professeurs, mais qui ont parlé quand même des choses sérieuses et des choses vraies qui concernent notre pays. En fait, à mon avis, ce n'est qu'un avis que je suis en train d'émettre.
Oui.
Je pense que le conseil consultatif n'est qu'un éléphant blanc de plus. Un éléphant blanc de plus dans notre pays. Parce que vous savez, je sais que le pays regorge des intellectuels et très très intelligents, très intelligents. Ils fabriquent n'importe quoi et capables même de changer le monde. Si l'application de tout ce qui était décidé était réelle, je vous assure que notre Congo serait un paradis, un paradis. Vous n'avez qu'à voir toutes les lois qui ont été votées au Parlement, et alors qui mettent ceci ou cela, hein, qui demandent à exécuter ceci ou cela, mais qui n'ont jamais été exécutées, mais qui restent lettres mortes dans les tiroirs, et nous continuons dans notre misère. Pourquoi je dis éléphant blanc? Tout simplement parce que ce sera encore un parlement vice. Un parlement vice. Ils ont été désignés les membres, c'est sûr, par différentes couches sociales de notre pays. Alors, pour émettre des avis qui ne sont même pas contraignants ou alors... qui oblige à ce que oui, mais alors qu'ils ne sont que des avis consultatifs. Pendant que nous avons la Banque centrale qui émet des avis sur le problème de l'économie, bien sûr, dans la politique monétaire, nous avons le ministère de plan qui regorge de spécialistes et dans d'autres ministères également du secteur de la vie de notre pays. Mais en fait, encore ces conseils de plus, mais... À mon avis, moi je pensais que quand on parle de la révision constitutionnelle, parmi les articles qui devaient être remplacés, c'est entre autres cette histoire de conseil consultatif, de ceci, de cela, des choses qui ont été seulement placées dans notre constitution pour satisfaire et faire la para de la communauté internationale. Moi, je pense qu'il était grand temps que nous puissions réfléchir là-dessus. Parce que c'est d'abord de l'argent du trésor public qui va sortir pour payer ces messieurs, leur installation, leur fonctionnement, leur paiement mensuel, pendant qu'il y a des enseignants qui ne sont pas bien payés, il y a des professeurs d'université qui n'ont pas de fait pour les recherches, des choses sérieuses, mais alors on va encore payer une structure qui va amuser la galerie et donner pratiquement des avis consultatifs. Mmh. Moi, je pense qu'on doit progresser, oui. Mmh.
Oui, professeur, vous insistez beaucoup sur cet aspect des avis consultatifs, même Omar aussi s'inquiétait, c'est ce que malheureusement la Constitution et la loi prévoient. Mais alors, vous avez suivi ce que disait Omar tout à l'heure, il y a le cadre des concertations économiques, vous avez évoqué la Banque centrale et son rôle, les avis à émettre sur le plan économique, on voit le ministère du plan, tout ce qui concerne aujourd'hui le DCRP, tout ce qui a été fait comme travail, les points de vue ont été récoltés à la base jusqu'au sommet par rapport à la stratégie sur la réduction de la pauvreté. Mais dès lors qu'on beaucoup de gens se rendent compte que tout cela est fait, mais ce n'est pas pris en compte par le pouvoir public, mais est-ce qu'on peut aussi, d'un côté, prendre le pouvoir public au tournant avec ses conseils économiques et sociaux qui, à un certain moment, pourra rendre compte à la population parce que c'est produit par la loi pour dire voilà ce que le gouvernement nous a demandé, voilà ce que nous avons proposé, mais dommage que cela n'a pas été écouté et des fois, le Parlement peut récupérer cela pour pouvoir comment aussi contrôler et faire pression sur le Parlement, le Parlement, lui, qui a un pouvoir de sanction sur l'exécutif, professeur Mwembo.
c'est vrai, mais c'est sans compter avec la corruption qui gangrène notre pays. Ça, vous le savez. Vous connaissez vous-même, je n'accuse personne, que même au niveau du Parlement, pour faire passer certaines lois, il y a la corruption. Même certains ministères, pour faire passer tel dossier, il y a la corruption. Et alors, malgré qu'il y ait une structure anti-corruption qui existe et qui régule le tout. Mais est-ce que ces gens réellement, comme ils ont un avis consultatif, et que nous n'avons pas, nous, population, nous n'avons pas le mécanisme de contrôle sur eux ou de pression sur eux, mais comment est-ce qu'ils ne pourront pas se faire corrompre, par exemple, par l'exécutif et dire, écoutez...
Voilà. Merci beaucoup, professeur Mumbo. Votre inquiétude est fondée. C'est l'inquiétude même aussi de maître Patrick Mavinga qui nous appelle de Matadi. Tout à l'heure, je disais à travers son message qu'il s'inquiétait sur le problème des consciences. Ça a été évoqué par Omar de Kinshasa, la conscience, la corruption. Est-ce que ça peut faciliter le travail du Conseil économique et social? Maître Patrick, vous êtes avec nous de Matadi au Bas-Congo. Bonjour.
Bonjour à tous les docteurs de la radio Capi.
Voilà, votre inquiétude, c'est aussi la même chose avec le professeur Mumbo, qui estime qu'on pouvait tenir compte de tous les avis qui sont émis par la Banque Centrale, le ministère de Plan, le DCRP, les cadres de concertation économique, voilà, autant de cadres déjà qui existent pour dégager des pistes et des solutions sur la situation économique et sociale du pays. Mais vous estimez que c'est important, parce que c'est prévu par la Constitution, mais quitte alors maintenant à évoquer la conscience des uns et des autres pour arriver vraiment à produire un travail qui puisse arriver à, en définitive, résoudre le problème de vécu quotidien de la population, maître Patrick.
Merci, c'est vous, comme j'avais dit sur la page Facebook. En fait, il y a deux choses avec lui. La première des choses, que la venue du Conseil économique et social n'est pas mauvaise du tout, parce que c'est ce qui est prévu dans la Constitution. Mais deuxièmement, il faut tenir compte de l'homme congolais, comme j'avais dit sur la page Facebook. En fait, l'homme congolais doit prendre conscience de ce qu'il fait. Parce qu'en faisant, en suivant ces débats, bien sûr, on dit qu'on ne parle de la désignation. Les membres du conseil économique ont été désignés. Mais cela ne voudrait pas dire qu'ils doivent faire des choses par rapport à eux-mêmes. Parce que l'article 4 de la loi organique numéro 013/27 du 11 octobre 2013, portant organisation fortement du conseil économique social, prévoit que ces gens-là, prévoit que les membres ou les conseillers, ils sont libres dans leur opinion, dans tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire, même s'ils ont été désignés, ils ne peuvent pas être poursuivis par rapport à leurs opinions qu'ils vont émettre lors des débats. Donc, ils ne doivent pas être pointés par les faits qu'ils ont été désignés. Non, nous avons vu des députés qui ont été nommés, mais qu'est-ce qu'ils font pour la population? Absolument rien, c'est un problème d'homme. Qu'on soit nommé ou qu'on soit désigné, qu'est-ce qu'il se constate qu'on comprenne la mission qui a été dévolue? Ici, c'est qu'ils ont été désignés, mais ils ont eu la liberté en sortir l'article 10, mais aussi par rapport à leur mission. L'article 4 prévoit. Ils doivent étudier la conjoncture économique et sociale du pays en vue de trouver des solutions aux besoins de la population. Donc moi, je pense que c'est très important qu'on crée ce conseil économique et social pour être proche de la population en vue non seulement des données, des avis quantitatifs qu'on passe d'aucun, mais il faut ne pas oublier la linéaire 2 de l'article 19 qui prévoit qu'il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du gouvernement et des provinces les réformes. Peuvent émettre des avis, mais aussi ils ont la mission d'interpeller ou d'appeler l'attention, c'est-à-dire interpeller les membres du gouvernement, interpeller le président de la République, afin de passer, donner des sons bilan par rapport à ce qu'il a fait. Ça pèse quand même, lorsqu'on demande à un ministre de venir expliquer la situation économique et sociale au niveau du Conseil, je pense que ça pèse quand même. Mais seulement, il faut le faire en liberté. Avec une autonomie totale, c'est ce qui permet de placer les conseils pour savoir une force par rapport à ça.
Merci beaucoup, maître Patrick. Voilà.
À la confiance des membres du conseil.
Merci beaucoup, maître Patrick Odon. Vous êtes à Chigapa, gardez la ligne. Professeur Stéphane Nzita, vous avez suivi maître Patrick Mavinga qui a évoqué les éléments de la loi, mais là, il se pose aussi un problème. Parce que vous êtes revenu plusieurs fois sur ces concepts. Le peuple congolais a besoin qu'il soit écouté. Alors, si les gens estiment qu'il y a une crise de confiance entre les élus, alors peut-être qu'à travers ceux qu'ils ont désignés dans ces conseils, il peut s'instaurer quand même un dialogue entre la population et ses différents membres qui peuvent transmettre quand même le souci, les doléances par rapport aux priorités sur les plans sociaux et économiques, dès lors que les gens se plaignent qu'ils ne sont plus en contact aujourd'hui avec leurs élus professeurs.
Oui, Pierre, vous savez, c'est bon, c'est quoi? C'est d'abord la procédure et la structure de la société. Quand vous avez une société qui est mal structurée, où les représentants de cette société ne sont pas élus par ce peuple, ils sont choisis, il y aura toujours un petit favoritisme, ça qui m'inquiète ici. Quand vous avez des gens qui seront choisis, bien entendu, des communautés, mais qui ne sont pas connus par la communauté. Il faut que les gens rendent compte de la communauté. Il y a des choses que je voulais terminer avec. Je pense que les connaissances des choses vraies, des choses justes, qui est l'orthodoxie, c'est une bonne chose. Il faut que les actions soient dans la bonne direction. Ça, c'est l'orthopraxie. Il faut que nous ayons des actions qui conduisent vers les choses justes et vraies. Aujourd'hui, nous avons un cycle électoral à achever. Achevons ce qu'on a commencé avant de recommencer autre chose. Nous avons des choses pendantes. Quand nous parlons maintenant, nous sommes en train de voir les listes affichées partout pour les élections, bien entendu. Et que faire de ces enfants-là qui sont devenus majeurs et qui étaient des enfants avant ces listes-là? Est-ce qu'on va seulement donner une nouvelle carte ou quoi? Donc vous voyez que nous voulons une chose de son contraire. C'est donc nous demander ici. Il faut la gouvernance, et la gouvernance, bonne de dire, il faut la procédure et les processus. Nous aimons trop vite faire des choses sans respecter la procédure. La chose est bonne, la constitution, mais la procédure, les processus n'est peut-être pas le même.
Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs pour revenir à vous conclure cette émission. Vous estimez que la plupart des cas, quand les gens ne vont plus se reconnaître, se retrouver dans les différents animateurs qui sont désignés pour diriger des structures, il va encore se poser le même problème de la crise de confiance au Don et Tachikapa dans la province du Kasaï occidental. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à la mise en place du Conseil économique et social. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Nous avons Didier Ntoumoua de Goma qui dit ceci: en analysant cette réaction, j'ai bel et bien, j'espère bien que la RDC va se conduire vers un monde développé, si et seulement si le Conseil met en vigueur ce qui est prévu dans sa loi. Il y a notre ami Gauthier Kawamwa de Fungurume qui dit: bon, le Conseil économique et social risque de connaître le même problème que d'autres structures sans pour pouvoir changer les choses sur terrain. Gauthier est aussi revenu sur des commissions d'enquête, des commissions initiées par le Parlement qui émettent des points de vue, des propositions, mais qui, au finish, n'apportent rien sur terrain. Voilà son point de vue. On va écouter les deux auditeurs de cette émission revenir au professeur Stéphane pour conclure au Don. Vous êtes à Chikapa, au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste de la radio Okapi.
Oui, au Don, si vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur ou soit arrêter.
Sujet, monsieur le journaliste, je suis en train de dire que au Congo, c'est un problème tout à fait difficile. Hein. C'est un idéal pour atteindre normalement l'économie, dans notre pays et voir aussi donc la crise sociale. Nous avons des grands problèmes. Primo d'abord, c'est la maintenance économique. Vous savez très bien que l'économie marche de pair avec la vie politique. Lorsque l'économie ne marche pas, jetez un coup d'œil maintenant vers la politique, vous trouverez qu'il y a des finances quelque part. Alors, messieurs les journalistes, je voudrais seulement vous confirmer que fait un petit tour à travers notre pays, vous trouverez que la population est en train de souffrir. Il n'y a pas la maintenance de l'économie, voire même la vie sociale est totalement par terre. Or, avec une bonne économie normalement, et où comme la vie sociale, ça doit commencer dans des milieux ruraux, dans nos villages. Descendez, vous allez voir que la population est en train de souffrir. Et la plupart des gens qui travaillent, ce sont les enseignants, les militaires et tout qu'on sort là. Mais il faut maintenant voir qu'on dit que la population est en train de souffrir. Donc nous sommes en train de proposer à notre gouvernement de manière de prendre les choses au sérieux. D'abord, la maintenance de la vie économique et il faut aussi stabiliser notre politique. Et aussi nous traversons une crise de la Constitution.
Alors, Odon, oui, Odon, au-delà de tout, au-delà de tout, Odon, au-delà de tout, Odon, par rapport,
il y a aussi la vie sociale,
Odon, par rapport, oui, Odon, si on peut faire l'interactivité, Odon. Alors, vous estimez vous qu'il faut d'abord une stabilité économique, politique, qui doit conduire aussi à une stabilité économique. Mais on le disait tout à l'heure dans notre échange, le rôle même de ces conseils. C'est de regarder effectivement toutes ces questions. Vous considérez que les priorités aujourd'hui sont au niveau rural, au niveau de nos villages. Les gens souffrent sérieusement, les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'accès aux services sociaux des bases. Et vous estimez que ça doit être pris en compte à partir de la base pour remonter. Et c'est ce qu'on souhaite que le conseil puisse arriver à faire. Merci beaucoup, Odon, de nous avoir appelé des Chicapa au Kassai occidental. On va terminer avec vous, Maurice. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein. On estime qu'une structure prévue par la Constitution, on peut bien sûr pouvoir la mettre en place. Mais malheureusement, l'inquiétude de beaucoup de personnes, c'est ce que la loi prévoit. Les avis sont consultatifs, mais dis-moi, on estime que les questions prioritaires de la population doivent être prises en compte dans la définition des sujets politiques. Maurice, on vous écoute.
Oui, je pense que mes prédécesseurs ont dit l'essentiel. Mais moi, à travers mon intervention, je voudrais commencer par rappeler d'abord une des missions confiée au Parlement, qui consiste à contrôler les gouvernements, les entreprises publiques et les établissements et services publics. Alors, dans ce Parlement, il y a la commission permanente ECOFIN qui a les mêmes missions qui sont confiées aujourd'hui à ce conseil-là économique et social.
Mm-hmm.
Alors, je pense que c'est vraiment une structure de trop. C'est vraiment ce que moi j'appelle l'exercice du lait. Lorsque on ne sait pas quoi faire, on va dispatcher le faible budget, les gains de misère que le pays dispose dans des structures tel conseil économique social, telle commission nationale des droits de l'homme. Ce pays actuellement n'a pas besoin de cette structure-là. On a des problèmes d'électricité, par exemple. La CNIL a besoin, par exemple, de 10 000 dollars, 50 000 ou 100 000 dollars pour acheter des transports éclairés des agglomérations de 100 000, 30, 50 000 personnes dans les noirs. Et cet argent-là doit être dilapidé parce qu'on a besoin de satisfaire des amis. Comme le pays se gère en club d'amis, il faut créer des structures pour casser des amis, pour justifier la dilapidation des fonds publics. C'est pas normal. On doit arrêter ça, on doit voir les priorités.
Voilà, pour vous, Maurice, vous estimez Maurice. Voilà, Maurice, vous estimez.
À la semaine. Ça pourrait produire beaucoup de choses en bénéfice de l'État.
Voilà, vous estimez, Maurice, parce qu'il faut qu'on s'écoute, le fait déjà qu'on a cette commission économico-financière au niveau de l'Assemblée nationale qui a presque les mêmes missions, qui doit émettre des avis, surveiller la situation économique, regarder, formuler, communiquer même sur l'évolution de cette situation. Beaucoup de gens ont évoqué, il y a beaucoup de structures qui s'occupent déjà de la situation économique et sociale. On a évoqué tout à l'heure le ministère de plan, on a évoqué la banque centrale. Notre ami Omar est revenu sur le cadre des concertations économiques. Il y a beaucoup de gens qui ont évoqué les DCRP, mais vous estimez qu'au regard de notre budget, de la faiblesse, des mobilisations des recettes, on ne pourrait pas encore mettre beaucoup d'argent pour encadrer, payer une structure, alors qu'on a d'autres problèmes qu'il faudrait résoudre, que vous considérez être comme prioritaire. Merci beaucoup, Maurice. On ne sera pas allé plus loin. Professeur Stéphane Nzita, nous revenons à vous en deux minutes pour conclure cette émission. On a suivi les uns et les autres les priorités. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais on estime que tout le monde peut regarder dans la même direction à un certain moment pour voir comment s'occuper vraiment des priorités qui touchent à la vie de la population. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure rapidement, professeur?
D'abord, je félicite que nous avons quand même adopté la Constitution. C'est un pas de l'avant. Mais je pense qu'on doit avoir la culture d'achever ce qu'on a commencé. Il y a trop d'inachevé. Et que demande le peuple? Eh bien, pas beaucoup de choses. Il demande la paix, la sécurité, les besoins fondamentaux, la bonne gouvernance. Et être empêché, lui, des tracasseries policières, ainsi de suite. Avoir seulement la chance d'avoir de l'eau propre, de l'électricité, ainsi de suite. Donc je pense qu'on lui est place de beaucoup de structures. Commençons à faire, à écouter les peuples, à respecter les peuples, à respecter sa volonté.
Merci.
Que nous avancions vers les deux.
Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur Stéphane Zita-Nizita, de nous avoir accordé de votre temps. Vous estimez qu'il y a beaucoup de choses inachevées qu'il faudrait aujourd'hui achever, beaucoup de priorités, mais du moins, en respectant la Constitution dans la mise en place de cette structure, il faudrait arriver vraiment à se pencher sur les priorités de la population, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, l'eau, l'électricité. Voilà ce qui a été défini par nombreux de nos compatriotes dans cette émission. Merci beaucoup à tous. Vous avez été très nombreux à vous pencher sur cette question du Conseil économique et social. Nous vous disons merci.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain pour un autre numéro de parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Mimi Kindou a assuré la mise en onde de Julie Feza. L'a réalisé. Pierrot et la Mégie vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Et nous restons à vous souhaiter une agréable journée en compagnie des Radio Capi. Au revoir.